Audiolib présente
Le Requiem des Abysses de Maxime Chatham. Lu par Xavier Béja. Le roman que vous tenez dans les mains est la seconde partie d'un diptyque commencé avec Léviathan. Aussi retrouverez-vous des personnages et des situations connues. Je vous souhaite un bon voyage en 1900. Après le monde industriel des villes, voici que s'ouvrent à nous les forêts et le folklore encore très présents des campagnes françaises. Mettez de côté votre scepticisme, votre rationalisme. Vous êtes à une autre époque où tout semblait encore possible. Chapitre 1. Paris, début juillet 1900. La lune épousait la bestialité, et de cette union naquit la sauvagerie. Le voile oblique traversait la haute fenêtre et posait un suaire d'argent scintillant sur la gueule béante qui surgissait d'un mur. Les crocs rutilants jaillissaient entre les poils, saisissant la nuit comme un morceau de viande. Les pupilles allongées buvaient toute la pièce, les paupières écartées, comme si les yeux s'apprêtaient à sortir de leurs orbites, emportés par la rage. La pleine lune pénétrait la longue salle d'exposition et irradiait sur la tête empaillée du loup, faisant frissonner Jacques. Le gardien du musée abandonna dans son sillage un profond soupir. Il n'aimait pas ce trophée. Il le trouvait violent. Et puis il n'avait pas sa place ici, dans un établissement noble. Le loup était un animal cruel, un prédateur, un chasseur sanguinaire qui hantait le folklore populaire depuis toujours pour terroriser les gens. Ce n'était pas une simple bête sauvage, c'était un monstre. Jacques ne comprenait décidément pas ce qu'il faisait là, au milieu des tapisseries anciennes, des armures chargées d'histoire, des vitrines d'armes médiévales et des vieux grimoires aux couvertures craquelantes. Et puis cette lune qui le caressait, c'était obscène. Jacques enfonça un pouce sous sa ceinture de cuir et de son autre main leva un peu plus sa lampe à huile. Le halo de la flamme orange réchauffait les présentoirs. Son reflet dansait sur le verre des casiers, fugace et transparent comme un fantôme. Comme le souvenir des vies incarnées par tous ces objets. 8 ans qu'il travaillait au musée de Cluny, la nuit essentiellement, à surveiller ses collections, ses souvenirs de la civilisation. Pour l'intellectuel, ils avaient une valeur inestimable. Pour le visiteur, un intérêt probable. Mais sur un plan purement mercantile, Jacques se demandait encore, 8 ans plus tard, pourquoi il fallait un gardien, la nuit, pour tout ce bric-à-brac poussiéreux et encombrant. Personne ne viendrait jamais voler quoi que ce soit. Ce n'était pas le musée du Louvre, ici. Il n'y avait pas d'œuvre d'art qu'un riche excentrique aurait pu monnayer une petite fortune. Aucun bijou antique que des receleurs sans scrupules pourraient fondre et revendre au poids de l'or. Rien de valeur. Seulement du temps. Des fragments du temps des hommes. Des jalons anonymes de l'histoire. À force de s'interroger, au détour d'une salle aux ombres un peu inquiétantes et emporté par trop d'imagination, Jacques s'était demandé si sa présence n'était finalement pas un leurre. Il donnait l'illusion de protéger ses trésors des vices du monde extérieur, alors qu'il était peut-être là pour l'inverse. Protéger le monde extérieur de ses antiquités, pour les empêcher de sortir. Au creux de la nuit, dans ces instants d'inattention, lorsque la société tout entière était assoupie, la vigilance des scientifiques